France Culture.
Les nuits de France Culture.
C'est un aveu ou une confidence que vous n'entendrez peut-être qu'à moitié au début de cette émission. Tendez l'oreille au moment de ces quelques mots du journaliste musical Mishka Assayas, car son micro n'était, semble-t-il, pas tout à fait ouvert à ce moment précis. Ces quelques mots, les voici. Si Grell Marcus n'avait pas existé, les gens de mon espèce n'existeraient pas en France. Cet hommage de Mishka Assayas à Grell Marcus est formulé alors que le journaliste et écrivain américain se trouve en studio, à ses côtés, au micro de Marc Voinchet, dans l'émission Tout arrive. En ce mois d'octobre 2005, Grell Marcus est à Paris, alors que l'un de ses ouvrages, consacré à Bob Dylan, vient d'être traduit en français. Like a Rolling Stone, Bob Dylan à la croisée des chemins, est un hommage très personnel au génie du chanteur qui sera distingué du Nobel de littérature quelques années plus tard. Comme à son habitude, Grell Marcus part de la musique et de la chanson, en l'occurrence Like a Rolling Stone, donc l'hymne de Bob Dylan sorti en 1965, pour aborder beaucoup plus largement l'esprit de révolte qui s'apprête alors à déferler sur l'Amérique. 40 ans après, ce moment fondateur nous est conté dans cette émission par Grell Marcus, entouré du journaliste Mishka Assayas donc, de son vieil ami, le chanteur Hugo Frey, et de la commissaire d'exposition Emma Lavigne. C'était le 25 octobre 2005, dans Tout arrive, par Marc Voinchet.
Tout arrive jusqu'à 13h aujourd'hui pour une émission très, très musicale. Nous recevons aujourd'hui dans Tout arrive Grell Marcus, Hugo Frey, Mishka Assayas et Emma Lavigne. Aujourd'hui, une émission préparée par Mathieu Conquet, avec Mathieu Conquet et Daniel Debeul. C'est la collaboration pour la traduction de Grell Marcus de Xavier Combes. À la console de diffusion pour la prise de son, Martin Delafosse, une émission réalisée par Philippe Rouy. Bonjour Hugo Frey.
Bonjour.
Vous nous rendez visite aujourd'hui pour parler non pas tant de vous, vous nous avez fait l'amabilité de répondre oui à cette invitation, puisque nous allons faire une émission consacrée dans sa plus grande partie à Bob Dylan.
Un grand plaisir.
Qui est un de vos grands amis.
Ah oui, oui, quelqu'un que j'admire beaucoup.
Et à qui vous offrez, quand il vient en France, couscous et camembert.
Couscous et camembert, exact.
Voilà, on s'arrêtera peut-être là pour l'anecdote, et encore que si vous en avez d'autres, par exemple, les voitures, je ne sais, les filles, la vie, telle que Bob Dylan, la vie, n'hésitez pas à nous livrer quelques-uns des secrets du grand homme, mais enfin, les secrets du grand homme, nous les avons sous la forme d'un livre, Secrets du grand homme, Secrets d'un pays, nous les avons grâce à un livre dont il faut dire qu'il est extraordinaire. Il s'agit de Like a Rolling Stone, de Grell Marcus, que nous accueillons avec, certes, un peu de timidité. Mishka Assayas, présente-nous Grell Marcus. Il souhaite, Grell Marcus, quand il décrit les journalistes, que les journalistes, il fait une recommandation, soit désagréable, hein, qu'un bon journaliste pour interviewer, doit être désagréable. Alors, Grell Marcus, je fais des efforts, mais je n'y arriverai pas, parce que franchement, on aime beaucoup le livre. Bon, vous nous dites, Grell Marcus, c'est un personnage très important, Mishka Assayas, vous qui êtes le monsieur rock français, on peut dire que, non, mais on peut dire, allez, pour mettre toutes les pendules à l'heure, que Grell Marcus est un monsieur rock mondial, mais pas seulement. Histoire de l'art.
Laconique, je pense que si Grell Marcus n'avait pas existé, les gens de mon espèce n'existeraient pas en France, tout simplement.
Alors, mais pour quelle raison?
Pour quelle raison? C'est parce que c'est un des premiers qui a essayé de voir dans le rock une explication de sa propre vie, du monde dans lequel il vivait, de la société où il se trouvait, qui a essayé d'établir des liens entre, je dirais, ce qui fait la matière de la vie collective et puis la spiritualité, enfin l'histoire, la politique, etc.
Alors, il faut rappeler, par exemple, ce livre très important aux éditions Alia, Lipstick Traces, hein, une histoire secrète du XXe siècle où se confondent à la fois la question du dadaïsme, du situationnisme et d'une histoire, hein, de l'art du XXe siècle. D'ailleurs, au demeurant, Grell Marcus, il n'y a pas longtemps, s'est exprimé dans Libération pour dire que faire une exposition sur Dada au Centre Georges Pompidou était un non-sens. C'est bien cela, Grell Marcus. C'est un non-sens qu'une exposition sur Dada.
Oui, oui.
C'est ce que Max Ernst
dit. It's a fascinating exhibit without a soul.
C'est une exposition fascinante, mais qui n'a pas d'âme.
Ben voilà, bon, ben, ça donne un peu l'idée de ce que fait... Dites, Grell Marcus, moi je veux bien essayer d'être désagréable pour que vous repartiez d'ici en se disant qu'au fond, vous n'avez pas perdu votre temps. Alors ça va être difficile, mais enfin, tout de même, après tout. Est-ce qu'aujourd'hui, à l'âge que vous avez, vous n'êtes pas si vieux, mais tout de même, vous ne vous dites pas qu'une vie entière à parler de rock'n'roll, ça sera aussi pour donner mauvaise conscience à Mischka Assayas, est une vie un peu gâchée tout de même? Est-ce que vous ne pensez pas que vous auriez pu passer du temps plus productif à parler des grandes figures de la grande culture du XXe siècle ou même du XIXe siècle? Vous auriez pu être biographe, je ne sais pas, de Gustav Mahler, être un biographe de Leonard Bernstein. Vous pensez que vous avez fait œuvre utile en vous consacrant comme cela beaucoup au rock, en ayant été rédacteur-chef de Rolling Stones, par exemple?
You know, you can only write about, honestly, what fascinates you and what you yourself have something to say about. And it isn't up to me to judge my own work.
Xavier.
Mais avec honnêteté, on ne peut écrire que sur ce qui vous fascine. Et on a forcément des domaines dans lesquels on a des choses à dire. Et puis d'ailleurs, ce n'est pas à moi de juger quoi que ce soit à propos de ce que j'ai fait.
Pourquoi votre livre est-il dédié à la radio, Grell Marcus? Nous, on a été sensibles, évidemment, à cette dédicace. Hein. À la radio, y a-t-il en dédicace de votre livre, Like Rolling Stones, donc chez Galahad Édition?
Oui. I spent a lot of time trying to decide who to dedicate this book to. And I thought of this person, and I thought of that person. Nobody was right. And then it struck me that where I have always heard Like a Rolling Stone with the greatest thrill, with a sense of surprise, on the radio.
J'ai passé beaucoup de temps à essayer de décider à qui je devrais dédier ce livre. Je me suis dit, telle personne, non, ça marche pas, telle autre personne, non, c'est pas formidable. Puis je me suis dit, où est-ce que j'ai toujours entendu Like a Rolling Stone avec surprise, étonnement et ravissement? Eh bien, c'est à la radio.
Oui, parce qu'au fond, Like a Rolling Stone, vous ne l'avez entendu live, chanté par Bob Dylan, que deux fois, véritablement, si j'ai bien compris.
Like a Rolling Stone live twice, right? Oh, I've heard Bob Dylan perform Like a Rolling Stone many times.
Ah non, plusieurs fois.
Ah, plusieurs fois. Oui. Alors, c'est un anniversaire, au fond, 1965-2005. Est-ce que pour vous, Like a Rolling Stone est vraiment, de Bob Dylan, une des plus grandes chansons de tous les temps?
One of the greatest songs of all time? Like so many truly great songs, like Complete Control by The Clash, or More Than This by Roxy Music, or A Change Is Gonna Come by Sam Cooke. When you're hearing Like a Rolling Stone, it's the greatest thing that ever could be. But so are the others when you're hearing them.
Il y a d'autres très grandes chansons qui sont dans ce cas de figure. Il y a Complete Control des Clash ou A Change Is Gonna Come de Sam Cooke, mais c'est effectivement une des grandes chansons de tous les temps.
Mais par exemple, c'est plus grand que My Way, chanté par Frank Sinatra.
Greater than My Way by Frank Sinatra? Pour moi.
Alors, on va l'écouter, cette chanson. On va faire quelque chose, Hugo Frey, oui. Que sur France Culture, on fait peu, qui nous est parfois reproché, mais je suis sûr que vous serez d'accord, Daniel Doubles, pour qu'on écoute les 6 minutes et 6 secondes de Like a Rolling Stone, mais comme si on était au temps où elle est sortie, c'est-à-dire on l'arrêtera au bout de 3 minutes, on fera comme si on retourne le 45 tours et on écoutera les 3 minutes suivantes. Mais tout de même, Grell Marcus publie les paroles en anglais et sa traduction, qui n'est pas votre traduction, vous l'avez chantée.
Ah, bien sûr, hein, c'est tout à fait différent.
Qui est une traduction plus littérale, qui n'est pas une traduction de chanteur, on va dire. Hein, la traduction.
Il faudra que je m'explique un peu tout
à l'heure. Mais je vous en prie, allez-y. Non, mais alors, justement.
Alors, j'éboie les paroles de M. Grell Marcus.
Hugo Frey.
J'ai lu tout votre livre et vous êtes un expert extraordinaire. Sachez que je crois que vous, c'est pas un problème des Américains de savoir comment on traduit leurs chansons. Mais néanmoins, en France, les Français qui aimaient Bob Dylan ne comprenaient pas ce qu'il disait dans ses chansons. Et il était nécessaire que quelqu'un ait le souci, peut-être, de porter ses chansons à la portée de ceux qui ne parlent pas l'anglais. Et ma passion pour Bob Dylan, qui s'est déclaré comme un coup de foudre...
Alors bien avant cette chanson, hein, 61.
En 61. Alors que je ne comprenais pas un mot de ce qu'il disait. Et je ne comprenais pas, dites bien que je ne comprenais pas. C'est donc quelque chose de différent. Ce n'est pas, aujourd'hui, je ne représente pas l'aspect littéraire de Bob Dylan, mais ce qui va beaucoup plus loin, c'est le son général entre la voix, la guitare, l'ambiance des arrangements.
Le coup de batterie.
Hein. Toutes ces choses-là qui ont touché mon cœur alors que je ne parlais pas l'anglais. En 1961, dès 61. Et donc, quand on traduit une chanson, il faut retrouver des sonorités qui conviennent à peu près. Il faut trouver le même nombre de pieds. Donc, vous savez qu'on dit que traduire, ça vient de tradire, l'italien, trahir. You know that? Donc, je m'explique.
Donc, vous avez il a fallu un peu trahir l'esprit de la lettre.
Je ne sais pas si Gail Marcus connaît mon adaptation de Like a Rolling Stone, et il faudra que je lui explique tout à l'heure pourquoi dans le refrain c'est très différent.
Alors, oui, parce que votre refrain, il dit quoi votre refrain?
Est-ce que vous voulez qu'on aborde ça tout de suite?
On va prendre les choses juste un peu dans l'ordre et puis on y arrive. Alors, Daniel Debbels, vous allez nous lire, s'il vous plaît, d'abord la traduction. S'il vous plaît.
Oui,
allez-y.
Oui.
La traduction en français, et puis on écoute en 2x3 minutes, Like a Rolling Stone, la version choisie par Gail Marcus de Bob Dylan.
Alors, il fut un temps où tu étais si bien habillé, tu balançais 3 thunes au clodo dans ton bel âge, hein. Les gens te disaient, fais gaffe, poupée, tu vas te planter. Tu croyais que tous se moquaient de toi. Tu te foutais de ceux qui traînaient dehors. Maintenant, tu la ramènes moins. Maintenant, tu fais moins la fière d'avoir à supplier ton prochain repas. Ça te fait quoi? Ça te fait quoi d'être à la rue comme une parfaite inconnue, comme une pierre qui roule? Ah, t'as été dans les meilleures écoles. Ok, Miss Solitude, mais tu sais, tu n'as fait que t'y défoncer. Personne ne t'a jamais appris à vivre dans la rue et maintenant, il va falloir que tu t'y habitues. Tu dis que jamais tu ne fais de compromis avec le clochard mystérieux. Mais maintenant, tu te rends compte qu'il ne vend aucun alibi, tandis que tu fixes le vide de ses yeux et que tu vis, tandis que tu fixes le vide de ses yeux et que tu dis, tu veux faire un deal? Ça te fait quoi? Ça te fait quoi d'être toute seule, sans foyer, à la rue, une parfaite inconnue, comme une pierre qui roule? Ah, tu n'es jamais retourné pour voir les grimaces des jongleurs et des clowns qu'ils faisaient tous, des tours pour toi. Jamais compris que c'est pas terrible, que tu ne devrais pas laisser les autres trouver des tripes pour toi. Tu chevauchais un cheval de chrome avec ton diplomate qui trimbalait sur l'épaule un chat siamois. C'est dur quand tu découvres qu'il n'était pas vraiment là où tout se passe, une fois qu'il t'a pris tout ce qu'il pouvait t'enlever. Ça te fait quoi? Ça te fait quoi d'être toute seule, sans foyer où aller, comme une parfaite inconnue, comme une pierre qui roule? Princesse dans le donjon, et tout ce beau monde en train de boire et de penser qu'ils ont réussi, s'échangeant de précieux cadeaux, mais tu ferais mieux de prendre ta bague en diamant et de la mettre en gage, baby. Tu t'amusais tellement de ce Napoléon à haillons et du langage qu'il parlait. Va le voir maintenant, il t'appelle, tu ne peux pas refuser. Quand t'as rien à perdre. Tu es invisible à présent, tu n'as plus de secret à cacher. Ça te fait quoi? Ça te fait quoi d'être toute seule, sans foyer, ou aller comme une parfaite inconnue, comme une pierre qui roule?
Alors on y va, vous êtes d'accord, on écoute cette chanson. C'est quelle prise, Mathieu Conquet? C'est celle qu'a choisi
Gail Marcus? Juillet 1965. Hein.
Hein, juillet 1965.
Time you dress so fine, threw the bumps of dime in your prime. Then you be
people call, say beware doll, you're bound to fall. You thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next meal. How does it feel? How does it feel to be without a home? Like a complete unknown, like a rock. But you know you only used to get juiced in it. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it. You say you never compromise with a mystery tramp, but now you realize he's not selling it. As you stand to the vacuum of his eyes and say, do you want to make a deal?
Fin,
très frustrant.
De la plage. Et donc, vous dites, on ne pouvait pas faire autrement que de retourner le disque, Dan Marcus.
No, when it was first played on the radio, that was exactly what you heard. You heard the beginning of the third verse, and it left you hanging. What's next? What's next?
Oui, c'est comme ça qu'on l'a entendu à la radio pour la première fois, c'est exactement ça, jusqu'au début du troisième couplet, et puis donc on était là, on se demandait ce qui venait après.
And the disc jockey would say, that was Bob Dylan's great new single, Like a Rolling Stone.
Et le disc jockey disait, voilà le dernier single formidable de Bob Dylan, Like a Rolling Stone.
Stay tuned, and we'll play part two sometime next hour.
Et restez avec nous, et dans l'heure qui suivra, vous entendrez la suite.
Très malin.
And people were driven crazy.
Et les gens étaient devenus complètement dingues par ça.
So they called up the radio station and said, play it all, play it all, play it all.
Et donc les auditeurs ont appelé en disant, jouez tout ça en entier, jouez le morceau en entier.
L'autre exemple dans l'histoire de la musique, j'ai fait durer le plaisir, on va l'écouter la deuxième partie, mais on va faire comme les radios américaines de la belle époque. C'était quoi, What Did I Say, par exemple, de Ray Charles, qui était une très longue chanson aussi.
The Ray Charles song was the same, but the frustration wasn't the same. Because What I Say, just like Shout by the Isley Brothers, both of which were two-sided songs this way. It ended, and then it started again. It wasn't a storytelling song. Here you're listening to the story, and so what happens next? What happens to her?
Xavier.
Oui, c'est le même principe avec la chanson de Ray Charles et pour la chanson Shout des Isley Brothers aussi, c'est le même principe, si ce n'est que à la fin de la première phase, ça s'arrête et ça recommence sur la deuxième phase. Ici, dans Like a Rolling Stone, c'est une histoire qu'on raconte et évidemment, on veut connaître la suite, on veut savoir ce qu'il advient de l'héroïne.
Grel Marcus, encore un peu de suspense. Vous dites que tout le monde se souvient de ce qu'il faisait, de où il était le jour de l'assassinat du président Kennedy. Sans doute faudrait-il que tout le monde se souvienne de ce qu'il faisait le jour où il a entendu pour la première fois Like a Rolling Stone de Bob Dylan. Alors par exemple, là, ça vous rappelle quoi? Vous étiez où? Vous faisiez quoi le jour où vous avez entendu un jour de 65 cette chanson?
Je ne sais pas.
Voilà.
I don't remember. I quoted a friend of mine in my book Like a Rolling Stone. She said, everyone remembers where they were when they heard Kennedy was shot. I wonder how many people remember where they were when they first heard Bob Dylan's voice. That I do remember. But not when I first heard Like a Rolling Stone.
Jeunes baises, hein. Oui, je me souviens pas exactement ce que je faisais quand j'ai entendu cette chanson pour la première fois. En fait, dans le livre Like a Rolling Stone, je cite une amie qui dit tout le monde se souvient de ce qu'il faisait lorsque Kennedy a été assassiné, et je me demande combien de gens se souviennent de ce qu'il faisait lorsqu'ils ont entendu la voix de Bob Dylan pour la première fois. Moi, je me souviens quand j'ai entendu la voix de Bob Dylan pour la première fois, mais cette chanson-là en particulier, je ne me souviens pas.
Daniel Debels.
Moi, je me souviens que c'était en écoutant Salut les copains. En 62, je crois, et je faisais mes devoirs, et puis tout d'un coup, Blow in the Wind a été diffusé, et ça a été comme une sorte de déchirure incompréhensible. Et je trouve très important ce que disait Hugo Frey tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a entendu ça, on avait quoi, 14-15 ans pour certains,
c'était le sombre.
On ne comprenait pas, mais tout d'un coup, il y avait dans ce non-sens un sens qui nous était promis, quoi. Et dont Like a Rolling Stones est l'un des jalons. Il me semble que d'autres chansons comme Sad Eyed Lady of the Lowlands, par exemple, vient combler d'une certaine manière encore notre attente. Mais ce qui était incroyable, quoi, c'était d'abord que ça faisait trait avec tout le reste de la production. Et Like a Rolling Stones, incroyablement, faisait la différence avec des chansons aussi importantes que I Can Get No Satisfaction, par exemple. Il y a peut-être Help des Beatles qui a produit un effet aussi saisissant.
Ah, par certains aspects. Qui est à exactement au même moment, hein, qui devient dans les tubes, qui est premier quand Like a Rolling Stone sort. Help est premier dans
les
charts.
Et alors, je voudrais juste dire une chose parce que ça me semble.
Oui, parce qu'il faut qu'on retourne le disque quand même.
Voilà. Capital par rapport à la lecture du livre de Karl Marcus, même je dirais des deux livres avec La République Invisible. C'est que je crois que l'un des mouvements les plus profonds de l'écriture de Karl Marcus, c'est de nous rendre ces chansons à une sorte de dehors, comme s'il n'y avait eu aucun enregistrement, comme si aucun enregistrement ne pouvait, amenuiser l'effet d'événement auditif. Et c'est pour ça que la radio, c'est incroyable, parce que c'est à la radio que ça a fait événement. Vous voyez, c'est comme une sorte de déchirure dans l'air, quoi. Et c'est, par rapport à ce que vous disiez, complètement ça.
Hugo Frey, je voudrais ajouter quelque chose, c'est que contrairement aux Beatles, moi, quand j'ai amené mon premier disque de Bob Dylan à Daniel Filipacchi, qui, à l'époque, tenait vraiment la direction de la jeunesse musicale en France à travers son émission Salut les copains, il m'a dit: Hugues, ce disque ne passera jamais dans mon émission. Alors que les Beatles étaient accueillis avec joie. Ils amenaient la jeunesse et la joie. Et Dylan a été rejeté complètement.
Alors c'est très important, pardonnez-moi, c'est juste un détail. Oui. En apparence, c'est-à-dire qu'il y avait donc Salut les copains et ensuite il y a eu Rock'n'Folk.
Oui, mais
et la première et la première couverture de Rock'n'Folk, c'est Dylan.
Oui, oui.
Donc il y a eu un passage de ouais, c'est ce que vous disiez tout à l'heure.
Mishka Sayas.
Tout d'un coup, il y avait du sens qui nous était donné, et même dans les publications, Rock'n'Folk, c'était quand même intellectuellement, etc., beaucoup plus important que les Salut les copains, moins anecdotique.
Oui, mais
Mishka Sayas.
Un témoignage bref.
Vous êtes notre comité scientifique.
Oui, merci.
Avec Marcus.
Quel honneur. Non, moi je suis plus jeune, donc j'ai découvert la voix de Dylan et en particulier Like a Rolling Stone quand j'avais 7 ou 8 ans. Et à cet âge-là, évidemment, on comprend pas un mot d'anglais. Et je me rappelle très précisément. Apprendre ça comme un mantra, c'est-à-dire j'essayais de prononcer les mots comme il les prononçait, comme si c'était la langue de magma, quoi, du cobayen, enfin, et c'était comme une incantation. Et il y a aussi une autre chose qui est très importante, c'est que Dylan était haï par beaucoup de gens, et beaucoup de gens disaient il sait pas chanter.
Voilà, c'est ça que je voulais dire.
Voilà, c'est perturbateur. C'était incroyable.
Et là,
moi, j'avais un copain, mais qui dès que je mettais
Bob Dylan,
un disque de Dylan, me poussait des hurlements.
Mais permettez-moi de vous dire que les premières difficultés que j'ai eues dans ce qu'on appelle le métier, C'est-à-dire que tout d'un coup, les gens ont dit, ce garçon, qui est bien gentil comme ça, il est bizarre parce qu'il aime des choses que nous détestons. Et lorsque j'ai apporté le disque à Pierre Delanoë, parce que j'avais pas le temps de traduire tout seul, de faire tout seul, je lui ai fait écouter, il m'a dit, mais je déteste sa voix, je déteste, je ne comprends pas ce qu'il dit, je ne sais pas, il ne sait pas jouer de la guitare, il ne sait pas chanter.
Alors, je vous donne la parole après, nous retournons le disque, hein, comme au bon vieux temps, Gail Marcus, et voici après donc, imaginons la radio américaine, moult publicité pour des boissons gazeuses de coloré, la suite de Like a Rolling Stone.
Comme le silence après Mozart. Hein.
Et voilà. Alors, comment on s'y prend, Gail Marcus, maintenant? Parce que 300 pages sur 6 minutes et 6 secondes. Un mot, Mishka Assayas,
ou Jaffé? Je veux dire que vraiment, en entendant la voix de Dylan, je me retrouve dans cet état où j'étais enfant. C'est-à-dire que je me suis dit que dans un monde normal, un type comme lui n'aurait pas le droit de chanter. Et que si lui prenait le droit de chanter, tout était possible. Moi, j'ai ressenti ça très profondément.
C'est ce qui vous a fait dire que, les Rolling Stones étaient un peu la bout de souffle
oui,
de la chanson.
Oui, oui,
le Big Bang.
Oui,
d'ailleurs, c'est ce que... Ouais. Vous avez le même mot, d'ailleurs, c'est intéressant, puisque vous aussi, Gail Marcus, vous parlez d'à-bout de souffle au sujet de Like a Rolling Stone, ce côté déclencheur.
Alors, Gail Marcus, est-ce qu'on peut essayer de voir, avec vous tout de même, ce que vous dites à la fois, d'abord, les malentendus? Est-ce que cette chanson, je vous pose la question, est-ce que cette chanson parle des Rolling Stones? Dites-le une fois pour toutes, là. Une fois pour toutes.
Who knows?
Qui sait?
Believe me, when people first heard this song, that's what they thought.
Croyez-moi, lorsque les gens ont entendu cette chanson pour la première fois, c'est ce qu'ils ont pensé.
They even thought This was Bob Dylan's attempt to join the Rolling Stones.
Certains ont même pensé que Bob Dylan voulait faire partie des Rolling Stones et qu'il a écrit cette chanson dans ce but.
But then people said, oh, this is about somebody putting down some girl.
Ah non, et puis après les gens se sont dit non, c'est à propos de quelqu'un qui lâche une fille, qui minimise une fille, qui la laisse tomber.
And then when people began to listen to the sound, to feel the music, they said, this is about a whole society changing.
Puis ensuite, les gens ont entendu le son et ont pu ressentir des choses. Et là, les gens se sont dit, non, c'est à propos du changement d'une société tout entière.
We are all in this song.
Nous faisons tous partie de cette chanson.
We are all being threatened.
Nous sommes tous menacés.
We all have a chance to live a different life.
Nous avons tous la possibilité de mener une vie différente.
And the song is a challenge that says, are you strong enough to live a different life?
Et la chanson lance un défi et pose la question, est-ce que vous êtes suffisamment fort pour mener une vie différente?
Now, people have been saying today, I didn't understand the words, but I understood the feeling or the sound or the drama. And that's the truth about Bob Dylan's greatest music. It is not the words. It is the human presence you can feel in the music, singing, orchestration.
Et beaucoup de gens autour de la table ont dit ne pas comprendre les paroles de Dylan au début et ont exprimé l'idée de l'importance du son, de l'ambiance. La vérité de la musique, de la grande musique de Dylan, c'est que ce n'est pas les paroles qui comptent le plus, c'est la présence humaine dans la façon dont il chante, dont les chansons sont orchestrées.
Mais vous dites, Marcus, par exemple, que c'est une chanson qui est compliquée à comprendre, et vous dites, elle donne à voir une époque qui n'est jamais arrivée.
It called for a time when people would break with the past, when people would abandon the lives they were trained to live, and live different lives. It wanted an absolute change in each individual, the singer and the listener.
Xavier.
En fait, cette chanson est un appel à rejeter le passé, à rejeter la vie qu'on nous a forcé à mener. C'est une chanson qui appelle au changement absolu de l'individu et de la société, et ça se ressent aussi bien pour le chanteur que pour les auditeurs.
That's a very dangerous and utopian demand to make on people or the world. Utopian dreams never completely come true. But even when they fail, they stay inside the people who heard them, and they torture those people. And they say, why are you failing the dream you know to be true? And so in that sense, Like a Rolling Stone remains the challenge that it was in the beginning.
Xavier.
Et c'est une exigence dangereuse et utopique. Et en réalité, le danger des rêves utopiques, c'est qu'ils ne se réalisent pas. Mais en même temps, ils restent à l'intérieur des gens et les torturent et sans arrêt les narguent en leur posant la question « Mais pourquoi tu ne fais pas se réaliser ce rêve qui est pourtant la vérité ?» Et Like a Rolling Stone demeure un petit peu ce défi qui nous est en permanence lancé de changer notre vie.
Mais ça n'est pas pour autant une chanson qui appelle à la révolution. Ça n'est pas pour autant une chanson. Ça n'est pas pour autant l'exemple de la chanson contestataire. C'est ça qui est incroyable avec cette chanson en même temps, c'est qu'elle est difficilement classable. C'est pas une chanson très politique au sens politicien.
Well, a friend of mine wrote me, who's much younger than I am. He was 4 years old when Like a Rolling Stone was released. And he wrote me and he said, whenever he hears this song, he hears a call for a very strange revolution. And he said, what would the country Like a Rolling Stone wants look like? And he says, millions of poor people wandering the land, making speeches and barbecue. Now, what a vision of democracy, speeches and barbecue.
Xavier.
J'ai un ami qui est beaucoup plus jeune que moi, qui avait 4 ans au moment de la sortie de la chanson, qui me dit que à chaque fois qu'il entend cette chanson, il considère que c'est un appel pour une sorte de révolution inédite. Et la question qui se pose, c'est à quoi ressemblerait le pays si cette révolution avait lieu ? Eh bien, le pays serait peuplé de millions d'individus pauvres qui ne feraient que des discours et des barbecues. Drôle d'image de la démocratie.
Daniel Debels.
Oui. Il y a quelque chose que je voudrais dire, c'est l'écoute de Dylan en France, enfin, telle que moi je l'ai vécu en tout cas, et je crois qu'avec quelques amis, et aussi notamment grâce à Hugo Frey, on l'a ressenti comme ça, c'est que l'apparition de Dylan, et notamment de Like a Rolling Stones, a aussi fait qu'on s'est distancié des chansons françaises, par exemple. C'est-à-dire qu'on n'a plus écouté ni Brel, ni Brassens, ni Ferré, de la même façon. C'est-à-dire que cette langue, qui était pourtant incroyablement poétique, nous semblait même encore trop marquée, trop conventionnelle. C'est-à-dire qu'il y a un effet de trouble, et donc en ce sens-là, une étrange révolution dans le monde de la chanson, qui nous a rendus étrangers à notre propre langue, d'une certaine façon, et apatrides en même temps. C'est-à-dire qu'on ne cherchait pas une autre nationalité. Mais cette voix, plus que tout autre, c'est-à-dire que même Cohen, ça n'a pas produit cet effet-là, les Beatles sortent... C'était un appel à une voix dont, moi, je crois que Marcus n'arrête pas de parler, c'est-à-dire aussi bien dans La République Invisible que dans le Like a Rolling Stone. C'est une voix sans terre, d'une certaine manière. C'était pas une voix d'Amérique, par exemple, qui s'imposait à nous. C'était une voix creusée où l'onde, alors la radio elle-même, rendait compte, si vous voulez, qu'il y avait là quelque chose, une étrangeté partout.
Oui, d'ailleurs, Grill Marcus dit qu'on est, quand on écoute Like a Rolling Stone, cette version-là, par exemple, c'est comme si on écoutait 3 ou 4 stations de radio différentes.
Absolument,
en même temps. Voilà. 3 ou 4 stations différentes.
C'est tellement vrai ce que vous venez de dire. C'est tellement vrai ce que vous venez de dire que je me suis trouvé moi-même marginalisé. C'est-à-dire que tout d'un coup, les gens qui aimaient beaucoup Jacques Brel, qui aimaient beaucoup la chanson française, Léo Ferré, etc., littéraire, on commençait à me regarder avec un certain mépris. Qu'est-ce que c'est que ce mec qui ramène la culture américaine?
Vous avez voulu tout traduire, tout chanter, Dylan. Hein, du coup.
Et je suis encore étiqueté. C'est un mec qui fait des traductions, des adaptations. J'en discutais hier avec le directeur de la SACEM en disant que serions-nous, Français, sans les gens qui ont traduit Shakespeare, notamment personne ne sait que c'est le fils de Victor Hugo qui a traduit Shakespeare, que serions-nous sans les traductions de Edgar Poe, de William Faulkner, enfin de... Bon, mais inversement, Cervantes ou... Inversement, que serait, par exemple, Bob Dylan s'il n'y avait pas eu un traducteur pour traduire Rimbaud en anglais.
Voilà, et vous dites, Hugo Frey, que vous avez fait avec Bob Dylan ce que Gérard Philippe fait avec Alfred de Musset, par exemple.
Exactement, voilà. Et, sauf que c'est, j'ai été banni du camp des auteurs-compositeurs à cause de ça. Et ça dure encore. Et je dois dire qu'autour de cette table, il n'y a pas malheureusement quelqu'un qui me dise « j'ai découvert Bob Dylan grâce à tes traductions », comme m'a dit Renaud. Par exemple, ça me fait très plaisir, parce que effectivement, il y a beaucoup de jeunes Français qui ont découvert Bob Dylan par mes traductions, parce que ils étaient sensibles au texte.
Mais j'ai envie de vous dire que alors du coup, je l'aurais presque découvert grâce à la voix que vous aviez. Avant même de chanter
Dirty
Dylan.
Voice, voilà. Dirty Voice.
Alors, c'est pas du tout par flatterie. mais il y a quelque chose qui était préparé là, à l'écoute de ce que Glenn Marcus décrit, quoi.
Je revois ce temps quand belle au vent tu jetais en riant au mendiant. Quelques sous. Je disais, garde petit, tu vas trop vite. Tu nous prenais tous pour, oui, des fous. Tu aimais tant plaisanter et te moquer des paumés, ça t'amusait. Tu parles moins qu'hier et tu fais moins, bien moins la fière. Tu pointes à la cantine le cœur en exil. Mais où vont ces fils, ces sans domicile, cette foule sans nom
Vous avez vu, vous avez entendu Grêle Marcus, ce que fait Hugo Frey, dans la traduction, il traduit lui au pluriel, comme des pierres qui roulent. Mais en revanche, il est très fidèle à une intonation dylanienne dont vous dites que Bob Dylan accentue quelque chose sur le rolling. Et ce que fait au fond Hugo Frey, c'est d'accentuer aussi sur le roule. Pourquoi est-ce si important, et tenez-vous à signaler comme vous le faites, que Bob Dylan accentue, fait traîner un peu le rolling de Rolling Stone? Qu'est-ce que ça veut dire ça, par exemple, Grêle Marcus?
You know, this is a musical translation. And that's why it's alive. That's why you can listen and understand without necessarily understanding the words. But I think it's a mistake to say Dylan stresses rolling. So what is the significance of that? The significance is that word occurs in the meter in a way that demands a stress. It's not saying this is the key image of the song. It's saying at this moment the music demands that I stress this word.
Xavier.
En fait, c'est une traduction musicale et c'est ce qui fait de ce morceau quelque chose de vivant et qu'on peut comprendre sans forcément comprendre les paroles. Alors, vous me posez la question de savoir pourquoi Dylan met l'accent sur rolling. En réalité, je pense pas que ça soit la question qu'il faille se poser. Il met l'accent sur le mot rolling parce que c'est une histoire de rythme. C'est l'exigence de la musique et l'exigence de l'accent tonique de la langue anglaise aussi qui fait qu'il le chante comme ça, mais ça symbolise pas forcément l'image clé qu'il essaye de rendre.
Je voudrais juste remercier Grêle Marcus parce qu'il vient de me donner, un mot que je cherche depuis des années, une musicale traduction. Merci, musicale translation.
Mathieu Conclé. Alors, puisqu'il est question de mots, il y a un mot qui est très, enfin, l'expression qui est très importante, c'est Rolling Stone, parce qu'elle a une histoire, cette expression, c'est l'origine. Voilà, un morceau de Muddy Waters, qui servira de titre pour le groupe Les Rolling Stones, qui servira de titre à un magazine pour lequel vous avez travaillé, et vous expliquez dans une, d'ailleurs, vous nous faites un petit peu le même coup que dans Lipstick Traces, puisque vous commencez par expliquer qu'au fond, Rolling Stone, Like a Rolling Stone, la chanson de Bob Dylan, elle parle vraiment des Rolling Stones, en fait, puisqu'elle parle de Muddy Waters, puisque c'est une chanson qui bouge dans le temps, qui a un sens dans le passé, comme dans la suite. Et dans Lipstick Traces, vous faisiez une réflexion autour de l'expression « faire bouillir le sang dans la tête », voilà, qui était...
Mishka Asayas, ça m'a
comme que Rolling Stone, ça désigne en anglais, enfin, un vagabond, quelqu'un qui erre, hein, qui a roulé sa bosse.
Marcus.
In the Muddy Waters song in 1950, Rolling Stone, that's a threatening image. Someone who's a Rolling Stone is very scary. He can't be controlled. He can't even control himself. And as Muddy Waters sings, his mother sang, gonna be a Rolling Stone. Show enough, gonna be a Rolling Stone. He's gone. Here.
Attendez.
Dans la chanson de Muddy Waters qui date de 1950, donc l'image de Rolling Stone, c'est une image menaçante, quelqu'un qui fait peur, quelqu'un qu'on n'arrive pas à maîtriser, qui n'arrive pas à se maîtriser lui-même. Et dans la chanson, Muddy Waters dit « Ma mère me disait, toi tu finiras comme une Rolling Stone, donc tu seras perdu. »
When the group, the Rolling Stones, choose this phrase for their name, it means we will cut our own path, we will find our own road. No one knows where this road will take us. So it becomes an image of freedom, and it's completely positive. It no longer has that threatening feel to it.
Et lorsque les Stones, eux, décident de prendre cette expression comme leur nom de groupe, c'est pour marquer le fait qu'eux-mêmes vont tracer leur voie sans que personne ne sache où cette voie va les mener. Donc c'est une image de liberté positive qu'ils essayent de donner avec le nom de leur groupe. Rien du tout, ça n'a plus rien à voir avec cette image menaçante ou effrayante.
Alors, avec votre livre, Like Rolling Stone, chez Gala d'édition Grêle Marcus, vous nous dites aussi que, et c'est le sous-titre, Bob Dylan à la croisée des chemins, vous nous dites qu'il y a plusieurs chansons, plusieurs types de musique qui, au fond, se retrouvent dans cette chanson de Bob Dylan et que l'on entend des accents anciens de l'histoire musicale de la musique populaire américaine. Vous avez fait un disque, vous, et que vous avez apporté, et on va écouter notamment, par exemple, j'aimerais que vous nous disiez en quoi cela est connecté à Bob Dylan, mais cela dit, quand on l'entend, ça semble évident, un morceau de 1929, Cotton Field Blues de Garfield Akers. Vous nous présentez ce morceau et on l'écoute. Et en quoi est-il connecté, ce morceau de 29, à Like a Rolling Stone de 1965?
When I thought about the song Like a Rolling Stone, I wasn't interested in what influenced it in any direct way, but I was trying to think of songs that existed in the same realm, that tried to work in the same manner. In other words, a very long song that told a story with pieces missing. And I thought of this great song by Garfield Akers, which is a mystical song about loss and recovery.
Xavier.
Lorsque j'ai me suis mis à réfléchir sur cette chanson Like a Rolling Stone, je me suis pas tellement intéressé à savoir ce qui aurait pu l'influencer dans sa création, mais j'ai recherché des chansons qui auraient pu exister dans la même sphère, si vous voulez, c'est-à-dire qui fonctionnent un petit peu de la même façon que Like a Rolling Stone, à savoir une histoire assez longue décrite dans la chanson, et c'est le cas de celle de Garfield Akers. Il y a une dimension mystique dans cette chanson de perte et de retrouvailles.
Hallelujah, mama, what are you trying to do? Hallelujah, mama, what are you trying to do? You're gonna make me love you, you're gonna break my heart in.
Daniel Debbins.
Moi, je trouve que c'est un des accents les plus inouïs et en même temps les plus forts des deux livres de Greil Marcus, que j'arrive pas à dissocier, hein, même s'ils ont été publiés à des temps un peu différents.
La République invisible.
La République invisible, c'est de nous avoir rendu d'une certaine manière, ou fait de nouveau prendre conscience d'une Amérique étrange. C'est-à-dire où vraiment rien ne se constitue sans se défaire et se recomposer à tout instant. Et de fait, les exemples ou de blues ou de folk ou de qui nous sont cités là nous renvoient à quelque chose qui reste dans un fond plus qu'étrange et fantomatique. Le terme de fantôme apparaît très souvent dans les livres de Greil Marcus, mais aussi ce qui est magnifique, et ça, je pense que par exemple, ça a été très bien compris en France, dans le fond, Deleuze l'a dit magnifiquement. C'est-à-dire que c'est de l'ordre de l'événement. C'est-à-dire que l'événement va aussi bien vers le passé, c'est-à-dire qu'il sonde le passé.
C'est ce que dit très bien Greil Marcus avec cette
absolument
chanson.
Absolument. C'est un livre, en ce sens-là, enfin, c'est un peu absurde de dire ça comme ça, mais c'est un livre très deleuzien. C'est-à-dire que tout fait événement à la condition de ne pas s'arrêter au présent. C'est pour ça que, et ce qu'il dit de qui est magnifique, et c'est vrai avec toutes les chansons de Dylan et d'autres, quelques-unes en tout cas, c'est qu'on écoute chaque fois une chanson pour la première fois, même si on l'écoute sur 35 ans ou 40 ans. Quoi. Et c'est ça l'étrangeté de ce qui se passe aux États-Unis.
Alors, Mishka Assayas, je voudrais que... on va faire une surprise, je pense, à Greil Marcus. On va lui faire écouter deux petits bouts de deux reprises de Like a Rolling Stone qu'il ne connaît pas. Mais la chanson, Mishka Assayas, sans vouloir vous poser absolument une colle comme ça, tout à trac, elle a été reprise combien de fois?
Oh, qu'est-ce que j'en sais? Alors là, non, je...
Mais enfin, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a été reprise par tous les plus grands de la même époque. C'est-à-dire que Bowie l'a chanté, Hendrix l'a reprise immédiatement, Marley a fait une reprise en 66.
Oui, oui, d'autant des Wailers.
Oui, il s'appelle Rolling Stone.
Est-ce que vous connaissez
Tous les gens de cette génération se sont assez vite emparés du morceau.
Oui, mais ça c'est le propre de la musique folklorique, enfin au sens large, c'est qu'une chanson, ça tourne. Enfin,
est-ce que vous connaissez la version d'Angrel Marcus, qui vous, théoriquement, vous devez connaître toutes les versions, mais donc la version du groupe, vous me dites qui c'est, The Remains?
The Remains, oui, c'était un groupe américain qui a une carrière assez éphémère, qui a pour particularité d'avoir joué en première partie de la dernière tournée des Beatles en 66 aux États-Unis. Et c'est un groupe vraiment de garage rock, un des meilleurs de l'époque. Ouais. J'ai un album d'eux, il y a des morceaux extraordinaires.
Like a Rolling Stones, vinyle, 33 tours. Vous connaissez les Greil Marcus?
I've wanted to hear this for years.
Ça fait des années que j'attends d'entendre ça.
And I've never been able.
Et ça fait, j'ai jamais eu de possibilité. Merci, tout arrive.
Tout de suite.
Alors, vous, c'est comment?
It's great.
It's great. Hugo Fred?
Oui, c'est magnifique, ouais.
Yeah.
Non, il est vraiment dans la chanson, quoi, ici.
Right on top of it. This was a rehearsal tape made in Boston. This was never meant to be released.
En réalité, c'était pas fait pour être lancé, ce morceau-là. C'était juste une démo qui a été enregistrée à Boston.
Oh, it's so Boston.
Oui, c'est très bostonien.
Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que qui illustre un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure. C'est lorsque j'ai fait mon premier spectacle en tant que vedette à l'Olympia, où je suis arrivé avec les chansons de Bob Dylan, Bruno Cocatrix avait intitulé « Le tournant de la chanson française ». C'est-à-dire qu'effectivement, on tournait le dos. Bon, Brel restera toujours Brel, il n'est pas question de dire. Mais c'est vrai que tout d'un coup, c'était une autre façon, une autre théâtralité. On n'est pas théâtral quand on fait du rock. Et pourtant, on a une autre forme de théâtralité,
oui, pourtant, oui.
Et cette façon de déchirer sa voix, etc., ça ouvrait la voix à tous ceux qui n'en avaient pas.
Est-ce que vous connaissez la version maintenant du groupe Spirit? Spirit, Mishka Assayas.
Spirit, c'est le groupe qui a été formé par Randy California.
Il sait tout.
Ah bah oui, non, mais enfin, ça, c'est un des groupes préférés des années 70. C'est un groupe, donc, comme son nom l'indique, californien, qui a été un peu entre jazz, chanson, folk, un peu expérimental aussi. Très à part, enfin, groupe du psychédélique. Californien.
Et vous connaissez cette version de Like a Rolling Stone par Spirit, Grand Marcus?
This is another version that I searched for and couldn't find.
Voilà une autre version que je recherche depuis des années.
Alors c'est Mathieu Conquet qui a repéré tous ces disques vinyles. En fait, je meuble un peu parce que je crois qu'on a du mal à caler le saphir. On ne se sert plus du tout de saphir dans la maison de la radio depuis des années.
Il a fallu aller les chercher dans les sous-sols. Hein.
Et alors on est en train de caler, je vois que ça s'agite en régie. Et vous les avez trouvés comment, ces disques, Mathieu Conquet? Ils sont...
Alors figurez-vous qu'il y a des fiches qui sont dans l'abri anti-atomique de Radio France.
Ah oui, voilà, ça y est, ben c'est calé. Alors voilà, Spirit Like a Rolling Stone. Non, pas la bonne plage, Philippe Rouille qui réalise l'émission.
Si, c'est ça.
Ah si, pardon, Philippe Rouille.
C'est un peu au milieu.
Allez.
Eux en font une balade.
Oui, il y a un truc très rêveur comme ça. Ouais.
Quelle année ça?
Ça c'est 75, 76, un truc comme ça.
Alors, Grand Marcus.
He's playing like Robbie Robertson.
Yeah. Yes.
Yeah. Il joue comme Robbie Robertson.
It's quite clair.
On vous fera les copies, Ben Marcus, de ces deux morceaux. Alors, nous arrivons quasiment au terme de l'émission. Et là, la transition n'est pas simple tout de même, parce que vous vouliez absolument inviter Emma Lavigne, Mathieu Conquet, pour parler de John Lennon après une émission entière consacrée à Bob Dylan. Comment s'y prend-on quand on est néophyte comme moi?
Déjà, parce que Lennon n'a pas chanté à ma connaissance les Rolling Stones. En tout cas, ils se sont rencontrés plusieurs fois avec Dylan. Et d'ailleurs, c'est Allen Ginsberg qui a un petit peu brisé la glace le jour où ils se sont vus. C'est une anecdote que vous racontez.
Emma Lavigne.
Oui, parce que je crois qu'il y a quand même pas
mal
de
commissaire de l'exposition de John Lennon à la Cité de la Musique.
Il y a pas mal de filiations à faire, donc, entre Bob Dylan et John Lennon, et j'aurais même dû inviter Grell Marcus à faire une séquence entière de l'exposition pour comprendre cet héritage. C'est vrai que quand Lennon rencontre Bob Dylan, donc, en août 64 à l'hôtel Delmonico à New York avec les Beatles, au-delà du fait que Bob Dylan lui fait fumer de la marijuana, Bob Dylan lui dit cette phrase: il faut écouter les mots. Et je trouve que c'est très intéressant ce que Mishka Sayas a expliqué par rapport à la façon dont vous écoutiez les chansons de Bob Dylan comme des mantras. Mm. Et j'ai le sentiment que Lennon a dû aussi écouter les chansons de Bob Dylan comme des mantras inlassablement, et que c'est véritablement cette écriture extrêmement riche, extrêmement riche de sens et de musicalité qui a inspiré à John Lennon une écriture beaucoup plus autobiographique. Donc à travers des chansons comme même I Am a Loser, fallait le faire quand même, Help, donc des cris vraiment de désespoir, et puis ensuite en 65 sa chanson vraiment autobiographique qui est In My Life, qui est un petit peu sa première grande chanson. Et même si c'est un héritage qui est en quelque sorte transcendé, je pense que Bob Dylan est vraiment en filigrane de façon très très ancrée dans cette démarche autobiographique de Lennon.
Vous montrez quoi sur Lennon, vous, au fond? Quelle est son importance après Dylan, par exemple? Alors, si je puis poser une question aussi.
D'après Mishka Sayas, Sans Dylan, il n'y a pas les nonnes. Hein.
Ah oui, alors, Mishka Sayas.
C'est-à-dire que si Dylan n'était pas arrivé, les Beatles auraient continué à chanter I Want to Hold Your Hand. Enfin,
Je pense que cet héritage est même tellement fort que quand Lennon se sépare des Beatles pour donc enregistrer son premier album solo, le Plastic Ono Band, en 70, il faut tuer les pères spirituels, donc c'est Elvis. Il faut tuer Zimmerman quand il dit dans la chanson God, I don't believe in Elvis, I don't believe in Zimmerman. I don't believe in Beatles. Donc je crois que c'est un héritage. I believe in me, Yoko and me. Voilà, c'est vraiment. Mais je crois que de tuer symboliquement Bob Dylan dans ce nouveau passage donc de la carrière solo de John Lennon témoigne aussi de cet héritage omniprésent qu'a eu Dylan dans la vie de John Lennon, que ce soit au niveau de la dimension de ses chansons et son investissement aussi d'artiste engagé.
Oui, ce qui leur est sans doute le plus commun, je pense, c'est d'avoir écrit des chansons qui les ont parfois dépassées. On pourrait parler de l'effet, c'est un auteur que vous aimez beaucoup, Melville, de l'effet Moby Dick un petit peu. Melville, après avoir écrit très jeune Moby Dick, écrit des romans qui seront sous-estimés par la suite. Et puis Dylan, dans les chroniques qui sont parues l'année dernière, se pose cette question justement: est-ce que je vais pas être dépassé par ce que j'ai déjà écrit et les gens commencent à me détester? Parce qu'il en est beaucoup question dans ce livre ainsi que dans le film de Martin Scorsese. Le désaccord de Dylan avec ses fans à partir du moment où il commence à jouer en électrique et plus de la chanson folk.
On le traite de Judas.
Voilà, il se fait insulter. Et il y a cette chose qui leur est très commune, c'est on peut parler de l'effet Moby Dick. Est-ce qu'on a écrit quelque chose qui est plus grand que soi, et est-ce qu'on va pouvoir le dépasser?
Voilà, et vous dites, hein, like a Rolling Stone, Grell Marcus, c'est Moby Dick. On ne comprendra peut-être pas jamais entièrement la totalité de ce qui est dit, et c'est sans fin.
You know, I hear moments in Moby Dick, in Like a Rolling Stone. After the Pequod sinks, there is a vortex that sucks everything into it. And you can hear that sound at the end of the second verse of Like a Rolling Stone. There's just a whoosh, and everything is sucked into it. But I never thought of the song as Moby Dick.
Quand je lis Moby Dick, j'entends des moments de la chanson Like a Rolling Stone et vice-versa. D'ailleurs, dans Moby Dick, il y a une sorte de maelstrom dans lequel tout le monde est emporté. On entend ça dans Like a Rolling Stone vers la fin du deuxième couplet. La musique est comme ça emportée dans une sorte de vortex maelstrom. Là, c'est formidable.
Daniel,
un
dernier petit mot.
Dans Hit the Document, il y a un moment où on voit effectivement Lennon et Dylan dans une limousine et Dylan est malade, ivre peut-être, et au contraire, Lennon prend une sorte de distance ironique à l'égard de Dylan. Et moi, je crois que c'est ce que dit Grell Marcus. Dylan est au centre du maelstrom, quoi.
Voilà, allez, on...
Lennon, il est à la périphérie avec Jenny, mais il tourne autour. Il n'est pas absolument... Enfin...
Bon, on se quitte avec une des versions, c'était bien normal de terminer par celle-là.
En tout cas,
Like
Rolling Stone. Je suis content en 1961, sans parler un mot d'anglais, d'avoir compris le génie de Bob Dylan.
Et aujourd'hui, d'être toujours en relation avec lui.
Aujourd'hui, il semble commencer à être reconnu beaucoup plus qu'il ne l'a... avec une autre dimension que celle qu'il y avait dans les années
60. Vous l'avez vu comme Rimbaud, vous avez cru voir Rimbaud.
Voilà, j'ai cru voir Rimbaud.
Voilà la version de Like a Rolling Stone par les Rolling Stones pour terminer ce Tout arrive.
And now you don't walk so proud. Now you don't talk so loud about having this.
Grell Marcus, Like a Rolling Stone, Bob Dylan à la croisée des chemins, c'est aux éditions Galahad.
L'émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 25 octobre 2005.